je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique, là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
Happy Hour. Happy Hour. Happy Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, vous avez le ventre qui gargouille, et bah c'est normal, ça veut dire que c'est l'heure de l'Happy Hour, midi 30 sur 48 FM, quoiqu'un petit peu avant, on est en avance aujourd'hui. Allez, c'est parti pour une heure d'émission. Elle fait partie intégrante de notre vie en ce qu'elle en constitue son point culminant. Elle est peut-être même ce qui nous rapproche le plus, nous humains, en tant que non-expérience commune. Cette grande faucheuse, représentée aussi sous cette effigie au doux nom de camarade. Et puis quoi de plus approprié qu'un 31 octobre pour en parler, date qui, Halloween est là d'ailleurs pour nous le rappeler, fait s'estomper la frontière entre le monde des vivants et celui, vais-je enfin la nommer, de la mort. C'est de cette hypocrisie-là, de ce tabou, comme si à trop la nommer la mort, elle finirait par se réaliser, que nos deux invités ont choisi de prendre le contre-pied, Noémie et Mathilde. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on précise que Noémie a un petit problème de voix, donc voilà, si jamais ça coupe, c'est pas nos micros, c'est de sa faute à elle. Vous êtes tous deux membres de l'association La Touche Étoile qui a vu le jour cette année, et par le biais de cette association, vous organisez ce qu'on appelle des cafés mortels. Alors avant de préciser un peu de quoi il s'agit, laissez-moi vous présenter ceux dont l'inspiration représente tout ce que le trépas n'est pas, Eric et Béranger. Bonjour à tous les deux.
Bonjour les gens.
Bonjour tout le monde.
De quoi vous allez nous parler chacun ?
Au départ, Eric, je voulais parler du paradis, mais a priori, Saint-Pierre a perdu les clés.
Ah, zut.
Donc, je vais parler du concours.
Très bien. Et quant à toi, Béranger ?
Focus sur les expressions pour nommer la mort.
Et ben voilà, qui donne envie. Mathilde et Noémie, la vocation première des Cafés Mortels, c'est donc de briser les tabous autour de la mort, d'en parler de manière décontractée autour d'un verre. Pour vous-même, ça a longtemps été un tabou, la mort ?
Oui, alors pour moi c'est un sujet qui a été présent dans ma vie assez tôt parce que je pense que comme beaucoup de personnes j'ai perdu un membre cher de ma famille en étant jeune et du coup c'est quelque chose auquel je me suis confrontée en étant enfant et qui m'a posé beaucoup de questions. Et du coup, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis heureuse de pouvoir aborder cette question-là sous ce
concept,
des cafés mortels.
Ouais. Ouais. Noémie, est-ce que je t'embête ou pas avec ta voix ?
Ouais, moi aussi, j'ai perdu des proches quand j'étais jeune. Et je crois en plus à l'époque, il n'y avait peut-être pas aussi tout cet emballement autour de la psychologie, d'être accompagnée aussi en tant qu'enfant. Et... du coup, ça pose la question de où est-ce qu'on peut s'exprimer ? Où est-ce qu'on peut lâcher la colère, le deuil, la tristesse aujourd'hui dans notre société, en dehors aussi des espaces thérapeutiques qu'on n'a pas forcément l'occasion d'expérimenter dans sa famille.
Le concept du café mortel a été imaginé par un certain Bernard Crétaz, c'est un sociologue et ethnologue suisse, il est décédé en 2022. Il avait à la base pour nom ces cafés mortels le Thanatos Café. C'était quoi le postulat de base de ce Bernard Crétaz ?
Lui, en fait, il voulait un peu rendre la mort accessible partout. Il disait, dans un bistrot, on peut s'y retrouver pour manger, mais on peut aussi s'y retrouver pour mourir. Et il y avait ce côté vraiment de dire, la mort, elle est partout, tellement partout qu'on ne la voit plus et qu'on n'en parle plus. Et lui, ce qu'il voulait vraiment, c'était visibiliser la mort. Son travail, il parlait beaucoup de rites funéraires, enfin, il a beaucoup bossé là-dessus, quoi. Mmh. Donc, lui, il voulait visibiliser tout ça.
Et comment vous avez eu connaissance, vous, de son travail à cet homme ?
En fait, avec Noémie, on avait envie d'aborder des sujets sociétaux au travers de l'association. Et comme on a une sensibilité à ce sujet, on s'est renseigné sur ce qui existait un petit peu partout en France. Et du coup, bah, on est tombé sur l'origine de la création des Cafés Mortels. Et c'est lui qui est là à la base de cette démocratisation du sujet de la mort. Donc c'est comme ça qu'on l'a découvert. J'aime beaucoup ce qu'il dit en introduction dans son livre. Il dit, par exemple, « Dans cette communauté provisoire, on peut tout ou ne rien dire. On ne juge jamais, on pardonne et on ne donne pas le moindre conseil. Ici, on est obligé à rien et c'est pour cela qu'on peut se permettre beaucoup de choses, y compris d'immenses éclats de rire. » Donc ça, c'est son principe qu'il développe dans tous ses cafés mortels. Et du coup, c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce concept.
Et d'après vous, qu'est-ce qui ne va pas à l'heure actuelle dans notre manière d'aborder cette question de la mort ? Et en quoi, du coup, les travaux de Bernard Crétaz vous ont donné un peu le...
Je pense qu'il y a toujours cette position de sachant. Ouais. Et qui fait qu'aujourd'hui, la mort, si on veut en parler, c'est aussi dans le cadre thérapeutique. Je vous dis ça, moi je suis thérapeute par ailleurs, mais le rapport, il est différent. Dans le cadre des cafés mortels, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que même les thérapeutes qui y vont, moi quand j'organise, je me mets pas dans la posture de la thérapeute. Je me mets, au même titre que tout le monde, dans la peau d'une mortelle. Mmh. C'est-à-dire une mortelle qui est confrontée à la mort, parce qu'elle a accompagné des gens, parce qu'elle a eu des drames autour d'elle, enfin peu importe. Mais du coup, ça enlève ce côté de psychologisation. Et voilà, quand on est là en train de parler de la mort, il y a des fois des éclats de rire, on est en train de boire une bière. C'est quelque chose qui est un peu... différent de quand on expérimente la mort dans la société, c'est forcément aussi dans la tristesse, dans la douleur, dans un cadre hospitalier, autour d'une table après des funérailles. Et il y a aussi un truc très très pesant dans tout ce rituel-là. Et je pense aussi que Crétaz, dans ce qu'il voulait faire, il a beaucoup travaillé sur les rituels, il a aussi institué l'apéro mortel comme une sorte de rituel pour aussi instiller un autre rapport à la mort.
Vas-y Eric.
Mais justement, est-ce qu'il s'est basé sur d'autres sociétés ? Parce que on sait que nous, c'est un peu culturel aussi, c'est tabou, là, comme tu disais en introduction, de parler de la mort. On sait que dans d'autres sociétés, justement, c'est pas du tout tabou, parce qu'on apprend à en parler dès l'enfance avec tout le monde. Donc est-ce qu'il s'est rapproché d'autres sociétés ? On sait qu'au Mexique, par exemple, ils ont une vraie culture par rapport à ça. Est-ce qu'il se rapproche de ça ? Les rituels se rapprochent par rapport à ça ? Ou est-ce qu'il a vraiment essayé de l'adapter à nous, notre société ?
Alors moi, je ne connais pas assez les thèses de Crétaz. En tout cas, de ce dont je me souviens dans le bouquin, c'est que lui, il dit que même dans sa propre famille en Suisse, il y a des rituels. Et en fait, même si nous, chacun, chacune, on plonge dans l'histoire de nos familles, la façon dont on va célébrer la mort, c'est-à-dire après les funérailles, ben, dans certaines familles, on va se retrouver autour d'un bon repas. Ça, en soi, ça constitue déjà un prémisse de rituel dans notre monde occidental. Voilà.
Des rites qui ont disparu petit à petit, progressivement, jusqu'au 19-20e siècle. Ils étaient encore un peu prégnants dans la société, en tout cas française, et de moins en moins. Parler de la mort, donc la sortir du silence, pour reprendre, je crois, des mots même de Bernard Crétaz. Mais on peut quand même aussi considérer qu'on en parle déjà beaucoup, rien qu'à regarder l'actualité là en ce moment de la mort. Alors, il n'y a pas un peu un paradoxe dans la volonté d'en parler, alors qu'on a l'impression qu'autour de nous, elle est partout, quoi.
Alors effectivement, c'est vrai que la mort est partout autour de nous, et en même temps, on n'offre pas aux gens la possibilité d'en parler ouvertement dans un temps donné et dans un espace donné. L'objectif des cafés mortels, c'est vraiment d'apporter cet espace pour discuter de son vécu, de son expérience, donc quelque chose de très intime. Et l'objectif, c'est vraiment de sortir son expérience, mais c'est du vécu. Et Bernard Crétaz le dit très bien, c'est une de ses principales règles, c'est que la première, chacun parle avec son cœur et avec ses tripes de ce qu'il a vécu, et qu'il n'y a aucune notion théorique sur la mort qui est apportée. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'ordre de l'expérience et du ressenti. C'est pas un lieu approprié pour philosopher sur ce qu'est la mort d'une manière très générale. C'est vraiment un temps pour l'expérience personnelle.
C'est peut-être aussi une manière de se la réapproprier, parce que donc je parlais de l'actualité dans les médias, on en parle beaucoup, mais finalement c'est loin de nous aussi. On nous parle de millions de morts, et finalement à la fin, on sait même plus ce que ça représente et ce que ça veut dire. Les cafés mortels, ils ont, je crois, essaimé en France beaucoup après le Covid aussi, donc ça veut dire quelque chose, puisque cette période, on s'en souvient, les funérailles étaient interdites, on n'avait pas le droit d'aller se rendre dans les cimetières. Donc ces cafés mortels, ils ont pour principe de renouer, comme on l'a dit, avec les rites funéraires, donc une manière de se réapprivoiser la mort comme expérience non seulement individuelle mais aussi collective. Et c'est bien là aussi le choix du lieu, c'est ça ?
Oui, le but c'est de faire ça dans un lieu que tout le monde peut fréquenter, qui est le bistrot où on trouve un peu tout type de personnes dans une ambiance où on peut boire, éventuellement manger. Un petit peu le côté de l'ordinaire, en fait, qui est aussi ça, la mort. C'est aussi le côté de l'ordinaire, même si quand ça arrive, ça frappe, c'est horrible. Mais en fait, on sait très bien que quand on est vivant, à un moment donné, il y aura cette étape-là. Donc,
voilà, que ça va nous tomber dessus indéniablement. Mais est-ce que ça revient pour autant à devoir faire de la mort quelque chose de positif, le fameux positif dont on nous rabâche aussi pas mal les oreilles ?
Alors, je pense que ça, c'est la perception de chacun. Je pense que c'est plus simple d'en faire quelque chose de positif quand on a fait un deuil il y a quelques années, plutôt que lorsqu'on vient de perdre un proche. C'est difficile quand même d'en tirer le positif de cette expérience. Ce qui est super intéressant dans les cafés mortels, c'est justement d'aborder un sujet aussi profond dans une ambiance aussi légère. Et du coup, je pense que ça apporte ce côté positif d'être dans un lieu convivial, voilà, de partager sur ce thème. Mais je pense qu'après, positiver la mort, c'est une expérience personnelle et que c'est vraiment chacun avec son vécu, avec ses croyances et avec là où il en est dans son deuil.
Et il y a, je crois, plusieurs manières de faire, parce que ça part donc de ce Bernard Créta, ce concept de café mortel, mais après chacun le met en place comme il le souhaite. Vous avez vous-même d'ailleurs, je crois, un peu hésité entre apéro mortel, café mortel. Quelles sont les différentes manières, en tout cas comment ça s'est développé en France, et vous, comment vous avez choisi de le mettre en place ?
Nous, alors, du coup, sur Mende, on en a fait deux pour l'instant. Donc, c'était des apéros mortels parce que ça s'est déroulé plutôt en fin de journée. Donc, voilà, on trouvait ça plus judicieux de le passer sous l'apéro. Le premier, il a été composé d'un groupe de 14 personnes. Oui. Donc, on était quand même assez nombreux. On a dû scinder le groupe en deux. Et le deuxième, on était un petit peu moins. Il y avait entre 6 et 7 personnes. Donc voilà, c'est intéressant aussi parce que c'est deux approches différentes. Et le thème, par contre, on est resté sur le même, c'est-à-dire parler de la mort sans tabou. Enfin voilà, quelque chose d'assez général quand même.
Avant qu'on vienne un peu plus en détail du comment ça se passe concrètement, qu'est-ce qui s'y dit, je propose qu'on passe à ta chronique, Béranger, puisque toi, tu as choisi de nous parler donc des différentes manières dont on parle de la mort.
Tout à fait, c'est ça. Bon, alors pour commencer, Mathilde, tu m'as mis dans l'embarras. Attends, je t'explique. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de cadre. Tu sais, du coup, j'ai décidé d'écrire ma chronique sur la thématique du jour. Et pour moi, c'est chaud, tu vois. J'avoue, je suis mort de trouille rien qu'à l'idée de parler de la mort. Noémie, je me permets de te tutoyer, car dans l'au-delà, je sais que tout le monde se tutoie. Ça se dit tu à tout va, ça se claque la bise, et bien sûr, ça continue les apéros mortels. D'ailleurs, pas bête l'idée de ces apéros mortels sur Terre. Mais là-haut, aïe aïe aïe, ils commencent à avoir les oreilles qui sifflent à chaque verre rempli. Et tu sais comment ils appellent ça là-haut, les apéros mortels ? Ils appellent ça les amuse-bouches. Je le sais car j'ai un don, je communique avec l'au-delà. Bah si, si, je te jure, bah c'est très simple. Je prends mon téléphone et j'appuie sur la touche étoile. Un petit rappel de ton assaut, une sorte de touche bis. Bah tiens, vous rappelez la touche bis des anciens téléphones, elle a aussi disparu, comme les cendriers dans les bagnoles, les annuaires, la tectonique et Didier Raoult. Alors, je savais pas trop où commencer pour écrire cette chronique, vu que je sais pas parler de la mort. Je me suis donc intéressé aux expressions pour nommer la mort. Et là, stupéfaction, voire même je crie au complot, je dénonce, j'alerte, j'accuse. Derrière chacune des expressions courantes pour nommer la mort se cache soit une marque, un courant de pensée ou bien un parti politique. Vous ne me croyez pas ? Suivez-moi, je vous montre. Alors, déjà, Mathilde, on te reçoit le 31 octobre, veille d'Halloween, soi-disant la fête des morts. Mais rien du tout. Halloween, c'est quoi ? C'est la fête des bonbons, des bonbecs, un jour béni pour les dentistes, qui militent d'ailleurs pour qu'Halloween soit fêté une fois par mois. Non mais sérieux, allez, Halloween a remplacé la Toussaint. D'ailleurs, je vous le dis, ça grogne là-haut. D'après vous, quelle marque se cache derrière les bonbons pour Halloween ? Bah, Haribo, bien sûr. avec un grand H. Et quel est le slogan d'Haribo ? Haribo, c'est beau la vie. Haribo, c'est beau la vie. Non, mais comme par hasard. Haribo, fête la vie pour Halloween. Non, on aura tout vu, sérieux. Halloween, c'est la fête du chicot sponsorisée par Haribo. Par souci de concurrence des bonbons, je me dois de citer d'autres marques. Alors, je tiens à vous dire que c'est moi qui écris cette chronique et que si vous voyez une pie qui chante, c'est mauvais signe. Car au ciel, personne n'est luti à la même enseigne. Voilà, c'est fait. Allez, je reviens sur mes expressions après cette plage de réclame. Ok, je vois que vous êtes encore sceptique, c'est pas grave. J'ai encore un sachet entier d'expressions pour vous convaincre. Alors, je regarde. Ah oui, tiens, celle-là. Manger les pissenlits par la racine. Non, mais qu'on me dise pas que les végans ne sont pas derrière celle-ci. Allez, j'en ai une autre, on reste dans le vert. Rejoindre les verts pâturages. Qui, à part les écolos, pour écrire ceci ? Non, mais allô, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mourir, c'est casser la pipe. Non, mais attendez. Il n'y a que moi qui entends là les cliquetis de l'industrie du tabac. Non mais sérieux, comme par hasard. Alors celle-là, c'est ma préférée. Delta, Charlie, Delta. L'âme de terre recrute, bien sûr. Non mais sérieux, allez, une dernière pour la route. Habiter, boulevard, des allongés. Super ! On a enfin le titre du dernier album de Boulevard Désert. Merci pour l'info, mais on n'était pas super pressés non plus. Non mais vraiment, la mort, c'est pas pour moi. Je suis trop claustro pour être mis entre quatre planches. J'ai trop le vertige pour être enterré 6 pieds sous terre. Je suis allergique à la poussière pour être incinéré. Je peux pas côtoyer les vers, je suis vermiphobe. Moi, je suis juste une machine à somatiser. Mettez une pièce sur mes anxiétés et je fais le tour des professionnels de santé. Ce qui en loser prend une éternité. Sentez l'odeur des bonbons Haribo comme l'inspecteur Harry, je fais le beau. Je veux tuer la mort, pas la braver. Si elle me chope, je vais trop en baver. J'en fais une montagne, mais comme montagne, finalement, c'est pas la mort que je crains, c'est de mourir.
Merci beaucoup, Béranger. Est-ce qu'il y a à toutes les deux une expression qui vous énerve quand on évoque la mort sans l'évoquer, quoi ? Je vous prends un peu à court, là. Hein.
Non.
Donc je propose qu'on revienne un peu plus en détail sur la façon dont ça s'organise, ces cafés mortels. Donc vous le disiez, vous en avez organisé deux. Ça s'est tenu au bar du Provençal, le premier, c'est ça ? J'imagine, donc l'idée, hein, on le rappelle, c'est donc de trouver un lieu un peu convivial, à savoir donc, le café, pour parler d'un sujet tabou, la mort. Mais j'imagine que c'est pas facile de lancer la discussion. Comment vous vous y prenez ?
Oui. Alors, au début, on se présente. Donc, on a été trois co-organisatrices de l'événement. Donc, Noémie et Caroline, qui n'est pas présente aujourd'hui. Et on dit les règles. Donc, l'objectif, c'est de poser un cadre, d'expliquer aux gens que ce qui se dit au travers de la discussion restera dans la discussion. Donc, ça permet de montrer qu'on respecte l'intime et l'expérience de la personne. Ensuite, on demande à ce que les gens pensent bien à payer leur consommation. Et que l'objectif, c'est vraiment être dans la bienveillance, dans le partage et surtout dans l'écoute. On n'est pas obligé de raconter son vécu. On peut venir dans un café mortel et simplement écouter. Voilà, on n'est obligé à rien. Donc là, nous, on est parti là-dessus aussi. Et on a introduit le sujet comme, vous, dans votre vie, est-ce que la mort est un tabou ? Voilà, on l'a amené comme ça. À savoir qu'il y a une multitude de thèmes qu'on pourra aborder. En fait, nous, on a choisi de faire par thème parce que l'objectif, c'était aussi que les gens s'identifient à pourquoi on vient à un café mortel. Là, on parle plutôt du deuil. Là, on parle plutôt de la fin de vie. Voilà, on a essayé de décliner quand même sous des thématiques, alors que Bernard Crétaz, lui, ne fait pas ça. Mmh. Mais parce qu'on voulait que ça parle vraiment aux gens qui sentaient l'envie de venir découvrir les cafés mortels.
Et vous, votre rôle, c'est quoi ? Peut-être qu'on peut préciser votre profession. J'imagine que c'est une question qu'on doit vous poser aussi. Quelle est votre légitimité, vous, à organiser ça quelque part ?
Alors nous, on est... Caroline travaille auprès d'enfants qui sont en difficulté scolaire. Elle est AES. Noémie, elle est thérapeute et moi, je suis éducatrice.
Donc vous êtes habituée à... comment on dit, des métiers du social, comme on les appelle. Donc voilà, habitués à parler de.
On est dans l'aide à la personne.
Voilà, l'aide à la personne.
Mais c'est vrai que dans le cadre des cafés mortels, on n'a pas du tout cette posture de professionnel.
Comme vous le disiez, il n'y a pas d'histoire de sachant, d'horizontalité, de verticalité plutôt, Eric.
Non, c'est pour savoir justement comment vous avez communiqué pour avant. Pour l'annoncer qu'il y avait ces cafés et quel type de personnes pour le coup ont pu venir, sont venues.
Alors on a fait beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, on a aussi imprimé quelques affiches pour les gens qui n'ont pas forcément internet et on était assez surpris de voir que le groupe était très hétérogène, il y avait vraiment tout type de profils, des personnes un peu plus âgées, des jeunes, des personnes qui ont perdu quelqu'un récemment, d'autres qui ont un deuil, qui ont fait leur deuil il y a plusieurs années. Enfin voilà, c'était vraiment très très intéressant ce mélange de personnes et au début on s'attendait pas à avoir autant de gens qui participeraient à l'événement.
Et qu'est-ce qu'elles y ont trouvé ? Est-ce que j'imagine qu'il y a eu des retours à la fin déjà du premier ? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit ?
Alors elles étaient d'abord, pour la plupart, venu par curiosité, parce que c'est quand même un thème qui intrigue. Mais il y a certaines personnes qui ont vraiment trouvé beaucoup de bienveillance dans l'échange, qui ont pu un petit peu déverser leur peine. Je pense à des personnes qui ont perdu un membre depuis peu de temps. Ça leur a permis de s'exprimer sur cette perte récente. Et aussi, j'ai perdu le mot, mais c'est vrai que la convivialité autour de ce thème qui a été aussi assez plaisante.
Et est-ce qu'il y a l'idée qu'en parler à des personnes inconnues, extérieures à son propre deuil, c'est plus facile aussi, ça désinhibe peut-être jusque dans le cercle familial ?
Oui, ça désinhibe. Après, la particularité de Mende, c'est que Mende, c'est petit.
Ouais.
Et qu'en vrai, quand on vient à un café mortel à Mende, c'est pas comme quand on y va à Lyon. Parce qu'en vrai, il y a toujours la possibilité de tomber sur quelqu'un. Et enfin, c'est pour ça, d'où l'importance de garder un peu le secret de ce qui se dit là-dedans. Après, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être, s'attendaient à trouver du débat.
Oui. Bah, j'allais un peu vous amener là-dessus. Déjà, est-ce qu'il y a peut-être... Est-ce qu'il y a plusieurs conceptions de la mort, en fait, qui sont donc pas débattues ? C'est pas le mot que je voulais amener, mais au contraire, c'est-à-dire qu'il y en a qui croient toujours à un après, sans parler de quelconque forme de religion, juste qu'on peut, rien que la résurrection ou toute autre chose, ou d'autres, juste un retour à la terre. Est-ce qu'il y a ça qui se développe dans ce type de discussion ?
Oui, c'est ce qu'on a perçu dans cet échange. Il y a des personnes assez terre à terre, qui finalement racontent leur vécu concret, et d'autres personnes qui nous ont amené plutôt des notions assez philosophiques et spirituelles. Et c'est vrai que nous, ça a été tout le travail de relier ces deux parties, parce que ça peut parler à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Là, quand on aborde la mort, il y a aussi cet aspect spirituel où il y a des gens qui croient, par exemple, en l'incarnation, en la réincarnation, etc. Et d'autres personnes qui n'y croient absolument pas. Et c'est tout notre job à nous, en tant qu'organisatrice, d'essayer de faire en sorte que ça parle au plus grand nombre et qu'on ne parte pas dans
du conflit de croyances. Ils et elles, ces personnes qui viennent, qui ont participé à ces cafés mortels, parlent plus de leur propre mort ou de celle des autres, de leurs proches ?
C'est plutôt de leurs proches. C'est vrai que c'est des récits, des témoignages surtout qui... notamment quand on perd un proche, mais justement l'idée ça serait peut-être qu'au prochain café mortel on puisse aborder cette notion de parler de sa propre mort, comment on visualise sa préparation, parce que ça c'est pareil, on n'en parle absolument pas, mais c'est assez intéressant quand même de se positionner et de savoir moi demain si je meurs, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'anticipe mes obsèques, est-ce que je me rapproche d'un organisme comme les pompes funèbres, c'est des questions qui sont très intéressantes et malgré ça on n'a pas encore eu la possibilité de l'aborder, mais En dehors, voilà, comme ils disent.
Après, dans le deuxième Café Mortel qu'on a fait début juin, on était en plus petit groupe. Et déjà, les gens étaient déjà venus au premier Café Mortel.
C'était les mêmes, hein.
Ouais, pas tous, mais certains, oui. Et du coup, je me demande, mais j'ai pas de réponse, est-ce qu'il n'y a pas aussi une première entrée en matière où c'est peut-être plus facile de parler du deuil
des autres,
enfin en tout cas de nos proches, et après de s'interroger, et nous. Enfin, je me souviens en étant partie du deuxième Café Mortel en me disant, ah là là, mais oui, avec mon copain, on n'a pas encore parlé de qu'est-ce qu'on fait s'il y en a un de nous qui décède, je ne sais pas s'il va être enterré, incinéré, et voilà.
Et est-ce que, donc vous l'avez dit, il va y avoir des thèmes que vous posez au prochain Café Mortel à venir. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de parler en fait de la mort en général et tout type de fin, donc c'est-à-dire fin du monde, fin de l'humanité, des choses comme ça, ça peut être aussi envisageable? Ou c'est vraiment axé sur l'expérience humaine?
Je pense que ce genre de thème entrerait plus dans un café climat. Mais on reste quand même sur la notion de mort vraiment générale, quoi. Ouais. Après, on décline parce qu'il y a quand même des thèmes qui nous ont été demandés. Hein. À la fin du premier Café Mortel, on a fait passer une feuille pour demander quel thème les gens aimeraient aborder. Il y a celui de la fin de vie qui ressort énormément. Je pense aussi que c'est un sujet qui pourrait beaucoup parler aux accompagnants, les personnes qui travaillent dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, etc. Je pense que c'est aussi un sujet qui interpelle beaucoup les professionnels qui s'y confrontent dans le cadre de leur travail. Et voilà, c'est plus de cette dynamique que ça marche.
Béranger.
En tant qu'animatrice, est-ce que vous avez des temps que vous prenez en prêt entre vous pour faire une régulation, revenir sur le café? Est-ce que ça a brassé en termes d'émotions?
Oui, on se réunit avant, après, pour organiser. On fait un débrief. On a perçu qu'on était peut-être un petit peu trop nombreux, que voilà, ça aurait pu se faire autrement. Enfin, on essaye de jauger et de faire en sorte que ça soit le mieux possible, autant pour nous que pour les gens, parce que c'est vrai que quand on est nombreux lors d'un Café Mortel, on a moins la possibilité de parler, et l'idée c'est quand même de pouvoir échanger, donc voilà, on essaye d'ajuster à chaque fois nos interventions.
Est-ce que c'est quoi la durée moyenne? Une heure?
C'est une heure. Pour nous c'est une heure, à peu près.
Et vous-même, depuis ces deux premiers, pardon Eric, qui viennent d'être organisés, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Moi, je trouve que ça a le mérite d'exister. Mmh. Voilà. Après, ça ne parle pas à tout le monde, parce que le sujet est particulier. Mais ce que moi, ça me dit, c'est qu'il y a un espace qui existe, et dans lequel on peut s'exprimer, et moi, je trouve ça chouette.
Ouais. Moi, je rejoins complètement Noémie. C'est vrai qu'on s'était demandé à un moment si, au vu de l'adhésion des gens, enfin voilà, on se disait qu'il n'y avait pas grand monde, que bon, est-ce que c'était pertinent de continuer ou pas. Et en fait, avec du recul, je me dis, même si ça touche que deux ou trois personnes, c'est trois personnes qui ont un espace pour en discuter. Et pour moi, ça a du sens.
Ouais. Eric?
Mais oui, comment ça s'organise exactement? C'est-à-dire que c'est au milieu du café que vous êtes, ou c'est dans un coin pour pas déranger les autres consommateurs entre guillemets, ou est-ce que c'est justement être vraiment au milieu du café, et limite si moi je suis là en train de boire ma bière avec un collègue, venir participer ou...
Oui, c'est plus dans cette
optique.
Optique, ouais. C'est vraiment d'être dans un lieu convivial et de se mélanger en fait aux autres. C'est vraiment l'idée du bar, c'est d'être dans un endroit neutre en fait. Et le fait de d'avoir des gens qui consomment à côté, qui rigolent, qui discutent, ça apporte cette légèreté aussi au sujet qu'est la mort, quoi. Voilà, dans l'idée.
Eric, tu viens de prendre la parole. Je te la laisse pour ta chronique. Donc, tu nous parles du concours. Qu'est-ce qui t'a fait ce concours?
Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la Cité internationale de la langue française vient d'être inaugurée à Villers-Cotterêts. Mm-hmm. Bon, je ne vais pas vous parler de ce lieu que Macron voudrait laisser comme une empreinte de son règne, de sa présidence. Non, je vais en profiter pour vous parler de la grandeur de la langue française en vous racontant cette activité consistant à épingler des labels de qualité sur les différents auteurs de la rentrée littéraire. Alors, existe ainsi environ 1500 prix littéraires en France. Alors, le plus connu, le prix Goncourt, sera attribué dans une semaine. Et ensuite, les 1499 autres pourront faire leur choix. Bon, il existe environ 10 000 maisons d'édition en France. Donc ça devrait en laisser du choix. Alors, par un incroyable concours de circonstances, on peut constater chaque année que seuls 3 éditeurs, allez, disons 4 grand maximum, sur 10 000 placent un de leurs poulains parmi les finalistes de ces grands prix littéraires. Et par un concours de circonstances plus incroyable encore, on note que les membres des jurys, par ailleurs écrivains reconnus et adoubés par toute la critique, sont tous publiés chez les 4 éditeurs en question. Alors, l'étonnement est total quand on sait que ces écrivains, dont certains commencent à tellement trembler des paluches qu'ils ont de plus en plus de mal à tenir un livre ouvert, touchent chez ces éditeurs des avances plus que confortables pour des livres qui rendront peut-être un jour si l'envie leur prend de s'y remettre et si leur prostate tient le coup. Oui, parce que le jury était essentiellement masculin, qu'on se le dise. Même s'ils tentent de se féminiser. Mais bon, les femmes, c'est bien connu, ne savent pas prendre les bonnes décisions. On leur a inventé le prix Femina. Au moins, elles ne peuvent plus se plaindre. Bon, le combat est acharné entre les directeurs de ces 4 maisons d'édition. Oui, le poste de directeur est aussi occupé par un homme, cela va de soi. Bon, il leur faut mitonner leur petite cuisine dans les arrières-salles des restaurants, plus huppés les uns que les autres. On a retrouvé quelques notes de restaurant. Une entrecôte saignante accompagnée d'un morceau avec tel jury, puis des rognons de bœuf sauce madère avec tel autre, un poireau vinaigrette et une vitelle. Tiens, ça devait être avec une jury féminine ce repas. Une truite aux amandes avec un autre. Un vrai travail gastronomico-littéraire. Clara, ce n'est vraiment pas un métier pour toi. Pas assez de bière dans tout ça.
C'est clair.
On s'y raconte de belles histoires. Entre professionnels de la littérature, c'est bien normal de se raconter de belles histoires. Tiens, imaginons qu'un tel vote pour un livre cette année et qu'un tel préfère cet autre livre. Ce n'est pas grave, l'année prochaine, on inversera les rôles. En vrai, de ces apartés, nul ne sait rien parce qu'ils ne sont pas censés exister. La seule trace qui en reste est une note de restaurant. Il n'en reste pas moins que des accords sont trouvés. Et tant pis pour ce fabuleux auteur dont les anges passeront une autre fois s'il a la chance d'être enfin édité par la bonne maison. Bon, j'avoue qu'il existe une exception à la règle. Amélie Nothomb ne doit mais alors absolument jamais gagner. Cela coûterait bien trop cher en champagne. Il faut quand même s'assurer que le livre qui va remporter le prix ait la dimension requise pour être exposé dans les rayonnages. Et que la syntaxe et le vocabulaire soient suffisamment accessibles pour être compris par le plus grand nombre. Bon, en gros, il ne faut qu'aucun mot ne dépasse 3 syllabes. Il faut également qu'il soit suffisamment simple pour permettre une traduction dans au moins 25 langues. Il en va de la fameuse réputation de la littérature française. Et c'est ainsi que les membres du jury se réunissent dans un restaurant. Forcément. Et ça donne au traditionnel simulacre de délibération. Alors on ne sait pas si le menu est copieux, mais on se doute que la tambouille fut bien accommodée. Et en hommage à ces 10 roublards cramponnés à leur ronde serviette, la récompense décernée est un ruban rouge qui va ceindre pour l'éternité la couverture d'un bouquin. Un peu comme on passe des rubans de couleur au cou des lauréates ou des lauréats des grands prix agricoles.
Oh, bah quelle belle comparaison, dis donc. Est-ce qu'ils seraient contents, les écrivains? Merci, Eric. Alors, c'est Café Mortel. Il nous reste un petit quart d'heure. C'est Café Mortel qui servent donc à nous réapproprier la mort, en parler de manière décontractée. Il propose donc un nouveau rapport à la mort dans la société. Ce serait lequel, à vos yeux, du moins? Le fait que ça marche, en fait, que ça prenne en France, qu'est-ce que ça veut dire?
Juste peut-être déjà qu'il y a une sorte de secret ou de tabou qui est en train de se lever. Ouais. Voilà. Depuis plusieurs années, effectivement, il y a... Je ne sais pas si c'est un regain, mais en tout cas... Parce que Crétaz, lui, il a fait ses Cafés Mortels entre 2004 et 2009. Il en a fait une quarantaine. Mais 2009, c'est il y a 15 ans. En fait, c'est super loin. Ouais. Et c'est vrai, comme tu le disais, post-Covid, il y a plein de choses qui ont émergé. Je ne sais pas à quel point c'est lié au Covid, mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment dans une mouvance où on a aussi envie d'interroger d'autres rapports. Moi, ce que je vois aussi dans le rapport à la mort, c'est aussi prendre soin de soi en tant que vivant. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on parle des morts, c'est à travers les morts qu'on parle de la vie, quoi. Et de nous aussi, et de la place en tant que vivant. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de toutes ces questions, quoi.
Ça dit aussi quelque chose de notre époque, où on vieillit de plus en plus tard aussi, et cette longévité s'accompagne de plus en plus aujourd'hui sur la question de mourir à domicile. On ne veut plus être enfermé dans les quatre murs des hôpitaux, des choses comme ça. Donc c'est peut-être cette recherche-là aussi de dire, bon, ben, la mort, il faut arrêter de la reléguer au personnel soignant. Avant, c'était plutôt les religieux qui avaient un peu la main dessus. C'est aussi cette recherche-là, quoi, de rétablir une espèce de récit collectif.
Complètement. Et ça va à tous les niveaux. C'est-à-dire, effectivement, c'est plus que les soignants, c'est plus que les religieux. On a tous et toutes, à notre échelle, un rôle à jouer. Et je pense que typiquement sur la notion de fin de vie, et là, à Mende, par exemple, il y a cette association de père et danse. Alors, c'est pas lié à la mort en directement, mais c'est à quel point, en fait, les gens qui sont les proches des personnes concernées, en fait, ce sont elles qui ont en priorité et la main et la connaissance pour pouvoir accompagner les proches, que ce soit dans le cadre d'une pathologie ou que ce soit dans le cadre d'une fin de vie.
Et justement, ça vous intéresserait pas une fois de faire intervenir un professionnel ou une professionnelle ? Le but, c'est vraiment c'est que ce soit juste un cercle de parole et que ça aille pas plus loin.
En fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans de l'échange d'expériences. Et faire intervenir quelqu'un, ça voudrait dire être plutôt dans quelque chose comme une conférence, où il y a une personne qui intervient et, encore une fois, qui se met peut-être un peu dans une posture de sachant. Ça peut être intéressant quand on est dans cette recherche de connaissances, de savoir sur un plan intellectuel, mais par contre, quand il s'agit de raconter vraiment son vécu, son mal-être, sa souffrance suite à la mort de quelqu'un, c'est plus simple quand même d'en discuter quand on est avec des personnes lambda, plutôt que quand il y a une personne... En fait, on ne veut pas apporter un lieu thérapeutique. Et l'objectif, c'est vraiment d'être dans cette neutralité. Et voilà. Après, je pense que dans le cadre de conférences, ça peut être hyper intéressant d'apporter un savoir de part un professionnel qui serait plutôt porté sur la fin de vie, sur des sujets différents. Mais là, en tout cas, dans le cercle de parole, dans le cadre des cafés mortels, c'est vraiment... le témoignage qui prime.
En tout cas, dans notre conception à Mende. Oui. Parce que c'est un peu chaque café mortel a ses propres règles. Ça dépend. Lui, par exemple, Crétaz, je reviens encore à lui, mais il a vraiment porté ce truc-là. Lui, il fait déjà une première phase de pré-bistrot. C'est-à-dire, les gens, ils rentrent dans le bistrot, ils discutent, ils papotent, ils commandent, ils mangent, voilà. Et lui, pour lui, Crétaz, c'est capital. Nous, on n'a pas fait ça parce qu'on n'était pas très nombreux. Lui, l'accueil, il dit entre 30 et 300 personnes par café mortel.
Ah oui.
Donc, c'est pour dire aussi, en fait, la façon dont on a envie d'organiser va aussi impulser sur le format de la rencontre et inversement. Le nombre de gens qui vont venir, le contexte va aussi donner des orientations un peu différentes. Lui, après, donc il fait le pré-bistrot. Après, il fait 15 minutes où je sais pas s'il lit un texte, mais en tout cas, il présente sa démarche. Donc, c'est aussi une posture que lui, il a choisi d'adopter. Et ensuite, il y a 2 heures de café ou de discussion, quoi. Et ensuite, il fait un après-bistrot où les gens se retrouvent pour échanger un peu avec qui on a envie. Mais du coup, ça, c'est un autre format. Voilà.
Vous-même, vous aviez participé avant d'en organiser des cafés mortels ?
Non.
Ok. Donc, vous apprenez en faisant.
Oui. Ouais.
Donc l'idée de ces cafés mortels, c'est de parler de la mort autour d'un verre et de ramener ce sujet-là dans l'espace public. Ça pose aussi donc, la question de la mort comme marché lucratif, qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui dans la société. Ces 30 dernières années ont en effet été marquées par la libéralisation du marché funéraire en France, de sorte qu'aujourd'hui il est dominé par 2 grands acteurs, donc on va les nommer puisqu'ils ne sont pas assez gros. L'Omnium de gestion et de financement, avec son ancienne qui est plus connue, qui s'appelle Pompe Funèbre Générale, et l'autre groupe, c'est Funécap. À eux deux, ils détiennent 40% du marché funéraire français. Avant ça, c'était une délégation qui était principalement prise en charge par les municipalités. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Elles sont que 10%, je crois, à avoir gardé ce service funéraire public. Et à l'heure actuelle, il y a un mouvement de coopératives funéraires qui se crée. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que vous en avez un peu connaissance ?
Ouais, en fait, le principe de coopérative, c'est juste de se dire qu'il y a des salariés qui se mettent ensemble, et c'est eux aussi qui sont décisionnaires. Donc, ça veut dire que c'est une sorte de garantie que le service qui est proposé, il ne soit pas dévoyé par des intérêts financiers. Donc, pour moi, ça remet vraiment au cœur de l'accompagnement qui est fait par les services funéraires, en tout cas sous le modèle de la coopérative, ça garantit le fait que la famille qui est en deuil,
elle soit la mieux accompagnée possible dans ses funérailles. Mmh. C'est-à-dire, après, bon, je ne sais pas, j'ai pas parlé avec des coopératives, mais on pourrait imaginer que quand on est une entreprise du service funéraire et qu'on a envie de, peut-être de marger pour se faire peut-être un petit peu de l'argent là où on peut, peut-être qu'on peut vendre, j'en sais rien moi, des trucs funéraires un peu plus chers ou pas. Peut-être que dans le cas d'une coopérative funéraire, il y a une écoute qui sera plus adaptée aux besoins des familles.
Mmh. Qui peut être moins perturbant aussi quand on est confronté à la mort, de se dire bon, bah, il faut que je pense tout de suite à aller acheter un cercueil. Il y a tout ce rapport-là aussi qui peut être remis en cause aujourd'hui. Et il y a également un nouveau métier dont vous m'avez parlé, que j'ai découvert en le lisant, ça s'appelle les tanadoulas. Alors, laquelle des deux peut m'expliquer ?
Alors, les tanadoulas, à la base, pour la plupart d'entre elles, ce sont des doulas, donc des sages-femmes, qui, donc, on se dirait que ça n'a aucun lien. Mais en fait, il y a dans l'histoire en général, en fait, les femmes qui accompagnaient les naissances, les grossesses, s'occupaient également des fins de vie, parce que la plupart du temps, c'était les femmes qui accompagnaient les gens dans leur fin de vie. Donc, je parle de ça il y a plusieurs
fort longtemps,
fort longtemps. Et aujourd'hui, en fait, les doulas, donc les sages-femmes, se sont réappropriées ce rôle d'accompagnante. Et du coup, alors c'est un métier qui n'est pas officiel, donc, enfin, qui n'est pas reconnu, en tout cas, par l'État. Et aujourd'hui, leur rôle à elles, c'est de proposer des services, donc autant aux personnes qui sont en fin de vie, en proposant une écoute, une bienveillance, une présence, et aux familles, du coup, qui sont en charge de préparer les funérailles. Et là, elles peuvent proposer, par exemple, de faire les démarches administratives, de se renseigner, d'être présente, d'organiser, pour essayer de décharger au maximum les familles. Mmh. C'est ça, leur rôle.
C'est une sorte d'intermédiaire. Donc,
c'est ça.
C'est une sorte d'intermédiaire, mais je pense que c'est important d'insister. Il y a vraiment ce côté, alors je ne sais pas si spirituel c'est le bon mot, mais on n'est pas juste, en tout cas les tanadoulas, elles ne sont pas juste dans le côté logistique. Il y a vraiment le côté soutien à la personne. Parce que souvent aussi les tanadoulas, c'est sur des fins de vie. C'est-à-dire qu'on voit la mort arriver, ce qui est différent d'un accident, c'est soudain, on ne peut pas le prévoir.
Oui, donc c'est pour préparer quoi en fait.
Ouais. Et du coup, il y a aussi l'accompagnement vraiment au départ. Ouais. C'est-à-dire au départ de la personne qui va partir, mais aussi des proches qui, eux, vont rester pour le coup.
Mm-hmm. Ce qui se faisait à l'époque des rites, hein, je crois, cette idée de préparation à la mort, on réunissait la famille, il y avait tout ça qu'on a un peu perdu avec l'arrivée de la médecine et qui a fait que finalement, en voulant guérir les maladies, on a éloigné la mort en fait de nos propres quotidiens. Donc, on l'aura compris, avec vos cafés mortels, vous cherchez à remettre un peu tout ça dans notre espace public, de remettre ce sujet au centre des discussions. C'est quand la prochaine date alors ?
Alors du coup, le prochain café mortel, c'est le jeudi 23 novembre à l'Osmose à 18h15. Et là, la thématique, c'est la perte de nos animaux de compagnie, qui est un sujet qui pourrait faire sourire. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui souffrent énormément de la perte de leur animal de compagnie. Et c'est quelque chose qu'on aimerait aborder.
C'est même parfois, des fois, la première expérience de deuil des tout petits.
Complètement.
Ouais. Noémie, Mathilde, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues jusqu'ici.
Merci.
Comment on peut vous contacter ? Vous avez un mail peut-être ? Page Facebook ?
Page Facebook, oui, c'est La Touche Étoile.
Ok, tout simplement.
Ouais.
Éric Béranger, merci à tous les deux d'être encore présents à ce jour.
Merci.
À bientôt.
À bientôt. Quant à nous, on se quitte sur cette chanson d'un certain Jacques Brel qui lui aussi met les mots sur les choses telles qu'elles sont avec ce titre titulé « La mort ».
La mort m'attend comme une vieille fille au rendez-vous de la faucille pour mieux cueillir le temps qui passe. La mort m'attend comme une princesse à l'enterrement de ma jeunesse pour mieux pleurer le temps qui passe. La mort m'attend comme carabosse à l'incendie de nos noces, pour mieux rire du temps qui passe. Mais qui est-il derrière à la porte et qui m'attend déjà en joue démon? Qu'importe, au devant de la porte il y a toi. La mort attend sous l'oreiller que j'oublie de me réveiller, pour mieux glacer le temps qui passe. La mort attend que mes amis me viennent voir en pleine nuit, pour mieux se dire que le temps passe. La mort m'attend dans tes mains claires qui devront fermer mes paupières, pour mieux quitter le temps qui passe. Mais qui est-il derrière la porte et qui m'attend déjà en joue démon? Qu'importe, au devant de la porte il y a toi. La mort m'attend aux dernières feuilles de l'arbre qui fera mon cercueil, pour mieux clouer le temps qui passe. La mort m'attend dans les lilas qu'un fossoyeur lancera sur moi, pour mieux fleurir le temps qui passe. La mort m'attend dans un grand lit tendu aux toiles de l'oubli, pour mieux fermer le temps qui passe. Mais qui est-il derrière la porte et qui m'attend déjà en joue démon? Qu'importe, au devant de la porte il y a toi.